Bonjour, je suis David Klajman de Fidélis, en partenariat avec l'AFF, l'association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Louise Duflo, qui est chargée de collecte digitale à l'Institut Pasteur de Lille. Avec Louise, nous allons parler notamment du Giving Tuesday, cet événement international de la solidarité qui a eu lieu chaque année en fin d'année. Louise va nous rappeler ce qu'est le Giving Tuesday et nous détailler l'opération originale que l'Institut Pasteur de Lille a organisée l'année dernière. Mais Louise va également nous partager son quotidien de fundraiser dans le digital et plus généralement nous dire pourquoi elle aime son métier. Sans plus attendre, écoutons donc Louise Duflo. Je reçois aujourd'hui Louise Duflo, qui est chargée de marketing digital à l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Louise.
Bonjour David.
Alors, nous allons parler aujourd'hui du Giving Tuesday, puisque Louise, tu as mené avec l'Institut Pasteur de Lille une campagne très originale l'année dernière. On va rappeler déjà ce qu'est le Giving Tuesday et on va essayer de, je sais pas, donner des idées de campagne que d'autres pourraient mener pour le prochain Giving Tuesday en fin d'année. Mais on va aussi profiter de ta présence pour parler de digital plus globalement. Parce que, alors, évidemment, chaque asso essaye de se sortir à sa manière de ce magma qu'on appelle le digital. Donc Louise, tu vas nous dire comment vous êtes organisé chez vous pour essayer de mettre des touches de digital sur vos différentes ressources de fundraising. Et on va essayer de rentrer, comme d'habitude, dans des choses très concrètes pour que les auditeurs puissent les appliquer ensuite sur le terrain dès le lendemain. C'est un peu la devise. Mais avant tout, Louise, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
Merci beaucoup, David. Bah écoute, moi, ça fait seulement quelques mois que je suis dans le caritatif, mais ça ne fait pas que quelques mois que je suis dans le marketing digital. J'ai fait toutes mes études et tout mon parcours professionnel dans le marketing digital. Donc là, c'est finalement, je l'adapte au secteur caritatif. Mais j'ai commencé mes études marketing, j'ai terminé avec un master en marketing digital que j'ai obtenu au Québec, à Montréal.
Alors Québec, pourquoi le Québec? Alors comment tu t'es
retrouvée
au Québec?
Pourquoi le Québec? Déjà parce que c'est une belle province, hein, d'un beau pays. Ouais. Non, c'était d'abord dans le cadre d'un échange universitaire classique sur un an pour compléter mon master. Et en fait, j'ai beaucoup aimé être là-bas, j'ai voulu rester. Donc j'ai continué, j'ai fait un certificat en relations publiques et un master en commerce électronique plus précisément, mais qui en fait touchait vraiment au marketing digital.
Et alors, est-ce que tu as vu des différences dans l'apprentissage entre l'Amérique du Nord et la France? Est-ce que, je sais pas, t'as...
Oui, clairement, on est beaucoup plus sur le côté pratique. Après, même si je sais d'expérience que les études aujourd'hui en France le sont de plus en plus et entre guillemets s'américanisent beaucoup sur cette méthode d'apprentissage où on est souvent en travaux pratiques, à apprendre sur des cas concrets avec des entreprises qui nous donnent des cas concrets. Donc voilà, j'avais tout de suite les mains dans le concret du marketing digital. Et en fait, j'ai enchaîné ensuite avec 2 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé en agence marketing où j'ai vraiment fait mes billes sur tout ce qui était stratégie. Et puis ensuite, dans une autre entreprise où là, j'étais beaucoup plus... Déjà, j'étais toute seule à mon poste. Donc on est, voilà, j'ai vraiment tout fait, ce que je fais aujourd'hui, à vrai dire. Donc, gérer tous les leviers digitaux.
Et alors, l'anglais, est-ce que ça t'a... Ça t'a permis de, j'imagine, d'être assez fluent, n'est-ce pas, en anglais. Ça te sert encore aujourd'hui? Est-ce que, enfin, pour la partie fundraising, est-ce que tu vas encore voir ce qui se passe là-bas et ça te donne des idées pour les appliquer ici?
Ouais, tout à fait. Bien sûr, du coup, j'étais dans une université anglophone en plus au Québec, donc dès le début, j'ai amélioré mon anglais et j'en ai vraiment fait quelque chose d'important. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue et je pense que c'est un vrai atout pour aller chercher des ressources, accéder en fait à de l'information qu'on n'a pas forcément tant disponible en France. Je dis pas qu'elle n'existe pas, ça serait faux. Mais voilà, en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, c'est un marché qui est déjà depuis de très très nombreuses années précurseur sur le caritatif, sur le fundraising. Et donc voilà, moi je m'inspire de ressources que je trouve en ligne. Et ça va être des gros acteurs qui parlent de marketing, de sales. Je pense à HubSpot par exemple, voilà, qui est un gros acteur du CRM. Ils ont un super blog, et ben voilà, ils ont des articles dédiés vraiment aux non-profits, et donc c'est là aussi moi que je vais puiser de l'inspiration et des bonnes pratiques.
Et donc quoi, tu reçois une newsletter de temps en temps de HubSpot? Oui, effectivement, c'est HubSpot, qui est un CRM comme vous trouvez, c'est un CRM en ligne, qui est un gros CRM en ligne. Je sais pas si peut-être même certains d'asso l'utilisent. Mais en tout cas, c'est très utilisé pour les moyennes PME, ou je sais pas, je peux dire de bêtises, mais. Et donc voilà, tu reçois une newsletter, et ouais, ils te donnent quoi comme type de conseils?
Alors ça va pas forcément être leur newsletter, mais ça va être, ils vont avoir des articles ou des livres blancs vraiment dédiés au marché fundraising. Ouais. Et qui vont parler de comment développer sa stratégie, alors au global, mais aussi souvent particulièrement sur le digital. Ça va être aussi des exemples très précis sur des types d'actions, des types de campagnes qui peuvent nous aider, c'est-à-dire exemple, le matching gift, donc le principe d'une entreprise va, pour chaque euro donné par un donateur, l'entreprise versera un deuxième euro. Donc ça permet vraiment de doubler cet impact qu'ont nos donateurs sur ce type de campagne-là. Donc voilà, c'est un très bon exemple de campagne et de démarche dont je me suis inspirée et qui est très courante en Amérique du Nord.
Ok, alors t'essayes, est-ce que tu te fixes une heure par semaine pour aller voir ça, ou non, c'est un peu quand t'as le temps, ouais, voilà, je sais que c'est...
je devrais être plus organisée, ouais, sur le sujet. Non, j'ai pas forcément un rythme particulier, mais en fait c'est dès lors que je me dis ok, je travaille sur tel projet, je sais pas, moi, si je me dis faut que j'améliore ma campagne emailing pour telle période, bah, je vais aller puiser un peu, je vais aller chercher, je vais aller creuser et trouver des nouvelles idées, des bonnes pratiques.
Ok. Et donc voilà, après, quand t'es rentré en France, t'étais à l'EDEC, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, je suis rentré en France pour des raisons perso, parce que, en fait, le Québec est un super pays que je...
Mais c'est loin.
Une province que je vous recommande. Mais c'est ça, c'est loin. Donc, en fait, se rapprocher de sa famille, c'est aussi important. Donc, je suis rentrée et j'ai bossé pendant 5 ans à l'EDEC Business School. Donc, je n'étais ni professeur ni étudiante là-bas. Je devais le même rôle qu'aujourd'hui, marketing digital, à la promotion de leur programme post-bac. Et donc, on a fait grandir ce bébé qui aujourd'hui est un bon gros bébé qui marche très très bien à l'EDEC Business School. Et ouais, où j'ai vraiment fait, là, pour le coup, toutes mes billes, où j'ai tout appris. Voilà.
Tu faisais pas, ils font pas du fundraising aussi, les decks?
Ils font du fundraising, ouais, tout à fait.
Mais
ouais,
tu pas,
mais j'y étais pas. Non, j'étais pas dans cette partie. Ouais.
Ok, et donc après, tu as eu l'opportunité, ou je sais pas si tu voulais aller dans le Nord, ou si c'est l'Institut Pasteur qui t'a fait déménager dans le Nord.
Alors, l'EDEC Business School est à Roubaix, donc c'est dans le Nord, c'est, ouais, à cette occasion-là. Et en effet, du coup, j'ai voulu changer un petit peu de secteur pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être après, mais qui rejoignaient pour être un petit peu plus aligné avec mes propres valeurs personnelles. Et en fait, voilà, lorsque j'ai vu ce poste à l'Institut Pasteur de Lille, je me suis tout de suite reconnue, aussi bien pour l'aspect métier, parce que j'ai vraiment ces compétences métier, et aussi cette volonté d'apprendre dans un nouveau secteur. Et ça veut dire aussi, du coup, une autre cible. Moi, j'étais vraiment à l'EDEC sur un public très jeune, lycéen, ouais, et parental également. Alors que là, aujourd'hui, on est sur un public beaucoup plus âgé. Et donc, c'est hyper challengeant pour moi. Enfin, voilà, j'apprends plein de choses, de nouvelles manières de faire, un nouveau langage, un nouvel environnement. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir rejoint Pasteur Lille depuis le mois de juin dernier. Ouais.
Pourquoi t'as changé, c'est toujours intéressant, tes valeurs. J'imagine que dans les annonces que t'as pu consulter, t'en avais peut-être qui étaient un petit peu mieux payées que, que ce que tu pouvais trouver dans le caritatif. C'est vraiment les valeurs qui te guident.
Oui, c'était vraiment ça. Alors, j'ai fait un peu ma crise de la trentaine, clairement. Voilà, il y a un moment donné, on se remet en question dans la vie. On réanalyse tout. Et là, je me suis dit qu'il fallait que voilà, je revoie un petit peu le plan professionnel. Et en fait, quand j'ai vu que c'était une offre pour le secteur caritatif, je me suis dit, OK, ouais, là, ça peut vraiment rejoindre mes valeurs parce que je fais en sorte, mon métier va vraiment servir à aider le quotidien des gens. Bon, bien sûr, le quotidien des chercheurs en premier, mais donc indirectement le quotidien des gens. Et comme tout le monde, moi, j'ai dans ma famille des gens qui ont été touchés par la maladie. Et donc, c'est aussi bien personnel que voilà, des valeurs que je partage. La recherche scientifique et médicale, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et donc, voilà, se lever le matin et de se dire qu'on bosse et qu'on va collecter de l'argent et faire ce que je fais pour une cause dans laquelle je crois, ouais, c'est hyper motivant. Et du coup, ouais, je suis toujours aussi motivée au bout de 8 mois, donc c'est okay. Que c'était la bonne raison.
Alors, oui, bah, ton poste, tu peux nous en dire voilà, que dessiner rapidement les contours de ton poste qu'on comprenne.
Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis chargée de collecte digitale auprès des particuliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait vraiment digitaliser tout le processus de collecte qui aujourd'hui est principalement en marketing direct. Donc, ça va être sur des envois postaux avec des primes avec les courriers. Donc là, on est là, le démarchage téléphonique, la prospection, etc. Donc moi, mon rôle, c'est d'aller chercher le public qui est aujourd'hui sur le digital, qui l'est de plus en plus parce qu'on est sur des boomers qui sont de plus en plus sur Internet, bien sûr, on l'est tous. On a tous un smartphone, un téléphone, une tablette et un ordinateur. Et donc, ça va être activer les leviers digitaux, donc ça va être aussi bien en organique. Donc là, je parle un petit peu plus métier, hein, tu me dis si c'est assez clair. Mais aussi bien activer, du coup, notre base de données de donateurs actuels pour les fidéliser et puis rappeler aux dons. Ça va être aussi prospecter, donc aller chercher des nouveaux donateurs avec les réseaux sociaux, mais aussi avec du payant, donc ça veut dire des campagnes Google, Bing, Facebook, Ads. Voilà, donc c'est vraiment gérer tous ces leviers-là et également, donc on travaille avec e-Raiser pour notre formulaire de don. Donc c'est aussi ça en fait, travailler sur tous les petits aspects qui vont faire que les gens vont de un, vouloir donner à Pasteur Lille et de deux, rendre leur expérience de don et la plus facile fluide, possible. Ouais. Exactement. Sur un public qui n'est pas forcément totalement adepte de la technologie digitale.
Ok. Bon, de toute façon, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur deux, trois exemples de ce quotidien de digital. Dernière chose avant d'entrer sur le concret puis Gaming Tuesday, mais je vois que tu as aussi un compte Instagram, voilà, comme ça on aura un profil à peu près que tu mets sur ton LinkedIn. Donc tu es aussi une artiste, c'est ça, à tes heures perdues, où tu étais, je sais pas.
Ouais, non, je l'ai été pendant quelques temps, je m'y suis essayée, mais c'est un métier un peu trop solitaire pour moi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis retournée vers le marketing digital, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une équipe, des projets, un objectif commun. Et en fait d'être artiste, en effet, c'est vraiment pour le coup un hobby et une vraie passion, mais qui ne rapporte pas beaucoup d'argent et qui est beaucoup trop solitaire. Voilà.
Tu faisais des toiles, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
On voit des toiles et des chats sur ton...
Oui, bah voilà, mes deux amours. Non, je fais ça.
On pourrait aller le voir, hein, Louise Duflo, _ art, ART, qui est sur Insta pour ceux qui vont sur Insta, bref. Ça montre. Mais souvent, il y a les artistes et le digital, ça peut être lié. Il y a beaucoup de graphistes, bien sûr, qui sont.
Tout à fait. Pour moi, le marketing, en fait, je l'ai choisi parce que j'ai besoin de créativité. Et le marketing, il faut toujours être créatif, il faut toujours être innové. Voilà, donc moi, tous les jours, je cherche de nouvelles idées et de nouvelles approches. Donc, ouais.
L'Institut Pasteur de Lille, bon, on connaît, enfin, tout le monde le rapproche de l'Institut Pasteur de Paris, j'imagine. Bref, t'en as peut-être un peu marre d'expliquer la différence, mais je vais te l'emmener encore une dernière fois. Rappelle-nous peut-être l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille, et puis, Et on avait déjà reçu Cédric à ce micro il y a quelques temps. Bref, redis-nous depuis quand ça existe et puis rapidement son financement aujourd'hui, comment c'est ?
Bien sûr, donc en effet, l'Institut Pasteur de Lille, il est distinct complètement financièrement de l'Institut Pasteur de Paris, et ce que ne savent pas beaucoup de gens. Et c'est normal, mais le fait est que du coup, nous, on est quand même de taille moyenne comparé à Paris, et cette année, on fête nos 130 ans. Donc l'Institut Pasteur de Lille a 130 oui. ans, ce qui est un très très bel anniversaire qu'on célèbre tout cette année, et surtout à partir de septembre, où il y aura pas mal de choses de fêtes pour célébrer cet anniversaire. L'Institut Pasteur de Lille, alors malheureusement, Monsieur Pasteur ne l'a jamais vu parce qu'il est mort avant, mais il a essayé. En tout cas, voilà, c'est quand même lui qui a demandé en fait à Albert Calmette de créer cet institut à Lille, parce que Louis Pasteur a été, si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts, il a été doyen de l'université de Lille, d'où son attachement à cette ville-là.
D'accord.
Voilà. Et sur en fait, le financement, on dépend à 75% de la générosité du public, donc aussi bien les particuliers que les entreprises. Les subventions ne représentent que 25% de notre financement. Donc le rôle de la collecte auprès des particuliers
est majeur.
Majeur. Voilà, c'est ça exactement.
D'accord. Et dans cette collecte, c'est aujourd'hui surtout du courrier encore ou...
Oui, principalement. Je le rappelle encore une fois, mais on est sur un public... La recherche médicale, ça touche un public relativement âgé. Je dirais senior. Donc on va dire au-dessus de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à cet âge-là qu'on se préoccupe le plus de sa santé, qu'on a des proches qui ont été vraiment touchés par la maladie. Et c'est vrai que la jeunesse est un petit peu moins impliquée, quoique vraiment de plus en plus. Mais eux, ils seront davantage impliqués sur des sujets relatifs à l'écologie, par exemple.
Oui.
Donc, j'ai un peu oublié ta question.
Non, c'était le mode de financement. Donc c'était courrier
oui,
en
c'est
majorité.
Ça, voilà. Principalement courrier, mais aujourd'hui la collecte digitale vise à représenter 20% de notre collecte auprès des particuliers. Donc voyez, on est quand même encore sur du 80-20, c'est pas du tout la même proportion, mais on y travaille.
La
tendance va s'inverser, c'est évident, parce que les comportements changent et évoluent. Donc là où cette génération de seniors est de plus en plus habile avec le digital, clairement, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, dans 20 ans, ça sera nos donateurs. Donc il faut tout de suite qu'on s'adapte à ce changement-là.
Oui, bien sûr. Ok, et même dans les... Enfin, après, ça devient assez difficile de distinguer dans le digital. Les 20%, c'est des gens qui ont reçu un courrier, ils ont fait la conversion digitale. Enfin, après, qu'est-ce qui vient du digital ? Qu'est-ce que les courriers, c'est
toujours... Alors ça, on l'identifie relativement facilement parce qu'on met en place des moyens de tracking qui nous permettent d'identifier d'où vient le don. En effet, il y a de la conversion, donc on appelle ça du print to web, où en fait, les gens vont recevoir un courrier. Sur nos courriers aujourd'hui, on met toujours un QR code pour que les gens le flashent et puissent faire un don en ligne. Et donc là,
la conversion, ouais. ça fonctionne bien entre parce que les QR codes, moi, mon expérience, c'est pas, ça marche pas. Enfin, il y en a très peu en fait qui vont.
Ouais, convertir. Si, ça fonctionne quand même. En effet, ouais. Ça dépend quelle campagne, quelle approche. Mais si, ça fonctionne de plus
D'accord.
en plus. En fait, le Covid a vraiment démocratisé l'utilisation du QR. Et donc on le fait. Après, c'est vrai que les gens vont recevoir le courrier souvent aller sur le site web parce qu'ils aiment être dans l'environnement desktop, parce qu'on parle quand même d'une transaction financière. Donc moi je compare toujours ça un peu au e-commerce quand même, on est sur une transaction où les gens vont devoir sortir leur carte bleue, faire la démarche de donner de l'argent, mais donc souvent préfèrent cet environnement du desktop, donc de l'ordinateur, plutôt que de faire sur mobile pour des raisons pratiques, pour des raisons de se sentir aussi, je pense, plus en sécurité dans cet environnement-là qu'ils maîtrisent mieux.
D'accord. Ok, bon, alors... On va passer au sujet du Giving Tuesday, puisque, comme je disais en introduction, vous avez eu une expérience unique très intéressante l'année dernière en collaborant avec l'auteur Franck Tillier, mais tu vas nous dire ça en détail. Alors, Bon, peut-être avant de rentrer dans ce que vous avez fait, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Giving Tuesday, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors, Giving Tuesday, ça a lieu une fois par an. Donc, en 2023, c'était le 28 novembre, je crois. Cette année, ça sera le 3 décembre. Et en fait, c'est une journée qui est vraiment dédiée à la générosité. Donc, ça célèbre le mouvement de générosité de tous les donateurs du monde entier. Ça a pris naissance aux États-Unis.
C'est une réponse au Black Friday.
Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment célébrer cette notion de soutien, de on marque que voilà les gens, pas seulement les Français, mais vraiment les gens partout dans le monde qui le peuvent, vont soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Donc nous, on a toujours été l'Institut Pasteur de Lille réactif à cette journée Giving Tuesday. Et du coup, en 2023, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Et c'était la première fois, du coup, que je devais mener cette campagne également.
Ok, donc ouais, c'est un mouvement qui vient de l'Amérique du Nord, comme tu dis, qui en France existe depuis quelques années. Tous les ans, on entend que ça, c'est de plus en plus connu. Maintenant, c'est pas encore connu par le grand public. Enfin,
Non, c'est en effet. C'est pas encore bien connu, mais justement, toutes les associations, toutes les fondations en France commencent vraiment à, entre guillemets, surfer sur ce mouvement-là. Et à le, comme nous, ce qu'on a fait en 2023, s'en servir pour remercier nos donateurs de leur générosité. Et on a tous une manière différente de le faire et on va en venir un petit peu plus en détail là-dessus.
Mais moi, ce que j'ai retenu un peu du Giving Tuesday aussi, c'est que souvent, c'est l'initiative qu'on avait déjà en tête ou qu'on fait par ailleurs. Et là, on le brande un peu Giving Tuesday. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a inventé pour le Giving Tuesday. Ça peut être une campagne qu'on faisait déjà avant maintenant on dit, c'est dans le cadre du Giving Tuesday, ça donne un peu un coup de fouet à l'opération.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est un mouvement qui est collectif. Donc, en fait, forcément, quand on est plusieurs à le faire, il y a forcément plus de force. Les gens comprennent que c'est, une date clé, un moment clé et qu'il n'y a pas juste une association qui va remercier un jour quelconque dans l'année ses donateurs. Là, c'est on va tous au même moment dire merci. Et bien sûr, plus on est, plus la force du message est importante. Et puis, Giving Tuesday donne aussi beaucoup de visibilité aux associations qui font partie de ce mouvement-là. Donc, c'est complètement gratuit. Hein. On est vraiment
On s'associe à cette marque. Voilà. Mais c'est grave, on paye rien pour...
Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, c'est un peu donnant-donnant, où à la fois, Giving Tuesday nous donne une plateforme, un peu de visibilité, et relaie nos messages et les campagnes qu'on va faire autour de cette journée-là. Et nous, à l'inverse, forcément, du coup, on va parler de Giving Tuesday pour porter notre message.
Oui. Ok. Alors, cette opération, l'année dernière, raconte-nous, j'aime bien commencer par un peu la genèse du projet. Comment c'est venu? Est-ce que c'est... qui a eu une idée un jour? Est-ce que c'est avec votre agence? Je sais que vous avez une agence aussi, tu peux la citer. Comment ça a démarré cette idée?
Alors, je me souviens plus exactement comment ça a démarré, parce que comme tous les projets, en fait, c'est plein d'idées qui se mettent ensemble et qui finalement forment une chose, un bel événement. Donc la campagne de fin d'année, la fin d'année du 15 novembre au 31 décembre, c'est vraiment la période charnière pour toute association, toute fondation, c'est là où on collecte le plus parce que c'est la période de déduction fiscale qui est tout à fait intéressante pour les Français. Et donc, on se disait comment on va pouvoir mobiliser nos donateurs, mais trouver un angle un peu différent qui sorte un peu de la campagne qu'on a prévue, qui est très, votre avantage fiscal, déduisez votre impôt, votre don de vos impôts, etc. Et je savais que moi, je voulais faire quelque chose pour Giving Tuesday. Donc, j'avais déjà prévu quelques idées. Et en effet, on travaille avec une agence marketing qui nous aide donc sur la construction notamment de notre campagne de fin d'année. Et on a discuté et tout ça. Et on s'est dit, il faudrait en fait peut-être qu'on profite de ce bel événement de Giving Tuesday, de cette journée de la générosité, pour remercier nos donateurs et pour en attirer aussi des nouveaux.
Ok. C'est Adfinitas, hein, l'agence, c'est ça?
Oui, pardon, du coup.
Oui, j'ai quand même.
Ils vont m'en vouloir. Oui, c'est Adfinitas, qui sont en fait à la fois à Paris et à Lille, donc on a la chance de les avoir à proximité. Et donc, on a également un autre paramètre très important dans la campagne que je vais vous expliquer, c'est qu'on a un parrain formidable de la fondation depuis quelques années, c'est Franck Tillier, donc auteur de livres policiers et à suspense des thrillers. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le.
Est-ce que tu le connaissais avant d'arriver
Non, moi je le lisais, je le connaissais pas, et en fait j'ai découvert que c'était quand même le quatrième auteur le plus lu en France, donc il était temps que je le découvre. Et donc Franck Tillier, qui nous avait déjà accompagné les années précédentes, notamment pour l'écriture de son livre Pandémia, qui avait été écrit avant le Covid, et avec qui en fait il avait travaillé avec des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille pour écrire son livre Pandémia. Donc voilà, c'était assez exceptionnel cette collaboration entre nos chercheurs et notre parrain, et qui a donné naissance au livre Pandémia avant la pandémie du Covid. Donc voilà. Donc là, pardon ?
Un visionnaire.
Exactement. Non mais comme quoi la recherche, c'est important de prévoir, de se projeter, et que même si les dangers sont pas immédiats, ils peuvent arriver, il faut s'y préparer. Donc voilà.
Alors,
c'est un très bon exemple.
Donc Franck Tillier était déjà dans les gens que vous côtoyiez de temps en temps. Et donc là, vous êtes dit, on va faire quelque chose avec lui.
Exactement. Voilà. Donc on a décidé de lancer une campagne qu'on a appelée une opération solidaire, lancée le 28 novembre, le jour de Giving Tuesday, et où pour tout don de 150 euros ou plus, nos donateurs recevaient un livre dédicacé par Franck Tillier lui-même. Et c'était pas n'importe quel livre, c'était son dernier livre, La Faille, et c'était l'édition collector. Donc vraiment un beau cadeau qui était l'occasion pour nous pour dire merci, mobiliser sous une autre forme que juste un appel à dons classique. Et donc c'était vraiment allier, voilà, collecte, générosité, Giving Tuesday, la qualité de notre parrain qui est exceptionnelle, très très disponible. Donc voilà, c'est comme ça.
On faisait un don sur une page spéciale, j'imagine.
Enfin, tout à fait. Donc comme je vous le disais, on utilise Eraser comme formulaire de don. Et j'avais donc créé une page dédiée à cette campagne-là, où en effet, toute personne qui faisait un don avait un champ à remplir avec le prénom qu'il pouvait personnaliser pour la dédicace. Donc toute personne qui faisait son don avant une certaine date allait recevoir son livre avant Noël, et c'était vraiment le cadeau idéal pour la fin d'année, à recevoir soit pour soi, soit pour un proche, et à glisser sous le sapin.
D'accord. Alors, l'idée paraît, est super. C'est pas qu'elle paraît, c'est qu'elle est super. Après, entre l'idée et la réalisation, comme souvent, il y a deux, trois étapes. Alors déjà, il faut le faire savoir. Avant de s'occuper de l'opérationnel, il faut déjà faire savoir que cette opération existe. Comment vous avez fait ça ? Est-ce que vous avez engagé des moyens pour que les gens soient au courant ?
Alors non, on n'a pas engagé de moyens particuliers, autres que notre temps, notre énergie, notre esprit d'équipe, et tant mieux, parce que vraiment c'était une très très belle expérience. Alors,
et le réseau de Franck Tillier quand même.
Exactement, le réseau de Franck Tillier, et surtout la disponibilité de Franck Tillier, qui a été vraiment hyper réactif, à l'écoute. Voilà, sans lui, clairement tout ça n'aurait pas été possible. Comment on s'est organisé ? Déjà, on a ciblé nos donateurs déjà existants dans notre CRM, et on les a informés de cette opération spéciale. Ils ont tout de suite été au rendez-vous, à faire des dons, à vouloir recevoir leur livre dédicacé. Et ensuite, on a publié également sur les réseaux sociaux. Franck Tillier a partagé à son réseau. Et ça nous a vraiment aidé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, qui désormais nous connaissent grâce à lui.
Et il y avait une opération spéciale. Est-ce que c'était pour une cause spécifique de l'Institut Pasteur ou
non, de toute façon, on collecte jamais pour une thématique de recherche en particulier. Donc là, non, c'était vraiment comme toujours, d'accord, comme ce qu'on fait toute l'année. C'était pas pour une thématique en particulier.
D'accord. Ok, donc on poste sur les réseaux, on fait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire des communiqués de presse peut-être.
Oui, sur notre site, une visibilité sur notre site, donc tous les visiteurs qui se rendaient sur notre site pouvaient voir cette opération et y être sensibilisés. Mais voilà, on n'a pas mis d'argent, on n'a pas fait une campagne Facebook Ads pour pour la faire connaître. Donc voilà, ça a été...
Pourquoi ça a été évoqué, ou on se dit...
Ça a été évoqué, mais c'était vraiment plus, encore une fois, on était quand même dans le cadre de Giving Tuesday. Donc c'était dans la générosité, le remerciement déjà en premier lieu à nos donateurs existants.
Ouais.
Et ça a été le cas, en fait. Et ceux qui se sont le plus mobilisés, c'était nos donateurs existants qui ont adoré recevoir ce livre d'un auteur aussi apprécié par les Français.
Ok, alors, donc ça, c'est la partie de se faire connaître. Et ensuite, bon, les premières commandes arrivent.
Oui.
et là, il se passe quoi? Parce que vous n'êtes pas une entreprise d'envoi logistique non plus, quoi.
Clairement. Et en fait, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on n'avait pas forcément anticipé. Mais on a appris plein de choses. Donc déjà, s'organiser avec Franck Tillier pour que, en fait, on commande, nous, on reçoive les livres. Ensuite, on aille chez lui pour qu'il nous signe les livres avec toute la liste des prénoms qui nous avaient été envoyés, qu'on vienne les récupérer. Mais après ça, il y avait aussi toute l'étape logistique que l'on a gérée purement en interne avec l'équipe collègue. Donc, on était à la période de Noël avec Maria Carré à fond dans le bureau en train de trier tous les livres. On devait faire correspondre le nom de la dédicace à la bonne adresse, l'empaqueter, préparer le courrier pour la poste. Voilà, ça a été vraiment beaucoup de boulot, mais c'était une bonne partie de plaisir. En vrai, c'est très sympa, c'était fédérateur pour l'équipe. Et puis, une fois que c'est fait, on est très, très content de l'avoir fait. Surtout, et je sais pas si j'y viens maintenant, mais finalement, ça a été une collecte et une campagne qui a très bien marché, qui nous a permis de collecter beaucoup de dons.
Alors oui, ça... Alors, déjà, ouais, la partie temps d'investissement, vous l'avez pas compté dans... On le compte pas, mais c'est toujours ces campagnes-là qui sont nouvelles et qui sont, c'est une première. C'est un peu toujours la difficulté, c'est que, et elle est dure à refaire tous les ans, celle-là. Ou peut-être sur d'autres, bon, je sais pas, il a d'autres livres, Franck Tillier.
Ouais, oui, tout à fait. Je crois qu'il vient d'en ressortir un nouveau, là. Il produit beaucoup. Je ne sais pas comment il fait, mais il produit beaucoup.
Mais voilà, dès que c'est la première fois, ça prend plus de temps et...
Ça prend plus de temps, exactement. Et en fait, c'est une courbe d'apprentissage, tout simplement. Et aujourd'hui, on sait un petit peu mieux comment s'organiser. On s'était organisé par vague, en fait. Il y avait une première vague d'envoi qui allait être fait pour que les gens le reçoivent avant Noël et puissent le glisser sous le sapin. Et une deuxième vague d'envoi après le 1er janvier, qui nous permettait aussi de temporiser et de pas tout faire à la dernière minute. Aujourd'hui, voilà, on a très bien compris le process, peut-être les failles de ce processus-là, mais au final, ça s'est bien passé. C'est juste que c'était chronophage. Au-delà de ça, c'était tout à fait gérable. Après, voilà, ça demande une équipe soudée et une bonne grosse journée ou deux dédiée à ça.
Et qui aime bien Mara Carrière, c'est pas...
Voilà, c'est ça.
ok, donc, ouais, les résultats, si tu peux les partager, pour qu'on ait une idée de ce que ça a pu récolter.
Ouais, tout à fait. Ben, on a été très heureux de collecter plus de 45 000 euros sur cette opération-là. C'est vraiment une très très belle opération. On s'était pas du tout fixé cet objectif-là. On s'était fixé un objectif déjà qui nous faisait rêver de 30 000 euros. Donc là, de dépasser 45 000 euros.
Parce que évidemment, on veut toujours collecter des dons. Hein, c'est l'objectif principal. Mais la visibilité et le regain de lien que tu peux avoir avec les donateurs, rien que ça peut justifier une opération comme ça, non ?
Oui, oui, tout à fait. Et puis, on n'était pas du tout, encore une fois, sur un message de défiscalisation, d'appel aux dons. Là, on était vraiment sur on veut vous remercier de nous soutenir. Et oui, on a besoin de votre soutien financier, on ne vous le cache pas, mais on veut aussi vous dire merci. Notre parrain veut nous vous dire merci. Et grâce à Giving Tuesday, dans ce cadre-là, ça a pris tout son sens.
Oui. Et en termes de visibilité pour l'association, est-ce que tu sais mesurer un peu des choses? Je sais que vous avez repris contact avec la petite fille de Albert.
Oui,
Calmette,
oui, oui,
pas
tout à fait, exactement. Alors, on a eu la très belle surprise un jour d'avoir un don très généreux dans le cadre de cette campagne-là. Et là, je regarde le nom et ça m'interpelle. Je me dis, tiens, c'est rigolo, Madame Calmette. Bon, Je me dis, c'est peut-être une pure coïncidence.
Donc, le créateur de l'Institut Pasteur.
C'est ça, exactement. En fait, c'est Louis Pasteur qui a mandaté Albert Calmette pour de construire l'Institut Pasteur de Lille et de vraiment le gérer. Moi, aujourd'hui, je travaille dans le bâtiment Albert Calmette. Et là, donc, dans le cadre de cette campagne-là, on a reçu un don de Madame Calmette qui s'avère être une des petites filles de Albert Calmette, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, mais on était vraiment ravis qu'elle en ait eu connaissance. Franck Tillier, bien sûr, également était ravi de voir que ça touchait la petite fille de Monsieur Calmette. Et voilà. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que Franck Tillier a aussi vraiment participé au succès de cette opération, parce qu'il a pris soin à non seulement dédicacer chaque livre au prénom du choix du donateur, ouais, mais il a également fait un dessin personnalisé à chacun des donateurs. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et pour Madame Calmette également, du coup, il l'a vraiment personnalisé en disant qu'il était ravi que la petite fille d'Albert Calmette le connaisse et soutienne Pasteur Lille.
Donc voilà, si elle l'a remarqué, c'est sûrement d'autres.
C'est ça.
Vous savez dire ça. Ouais, des nouveaux donateurs.
Oui, on a eu des nouveaux donateurs. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça nous a quand même fait connaître auprès de donateurs qui ne nous connaissaient pas avant. Et ça, je le sais, c'est grâce à Franck Tillier qui a partagé à son réseau. Donc on a su toucher les fans de Franck Tillier notamment.
ok, donc pour le Giving Tuesday cette année, tu. Bon, on est encore un peu tôt dans l'année, mais est-ce que tu sais déjà ce que vous allez faire ou pas ?
On a une petite idée, alors je ne vais pas tout dire, mais oui, on va probablement renouveler une opération de ce type-là, mais lui donner davantage d'envergure.
D'accord.
Et aller toucher un public plus large. C'était la première année l'an dernier, et on a vu, face au succès, on s'est dit que voilà, c'était quelque chose à refaire, peut-être sous un peu une autre forme, mais si Franck Tillier est toujours partant, je pense que ça sera renouvelé et encore plus grand cette année.
Bon, mais c'est, oui, ça montre que chaque assaut peut trouver ses forces. Là, vous aviez Franck Tillier,
oui,
après, il faut trouver l'idée qui va avec. Et
c'est
puis,
ça.
Et puis souvent, c'est mieux la deuxième année. Sans vouloir te... Non, mais ça, la première année, on essuie les plâtres, voilà, comme tout ce qui est nouveau. Et puis, ok. C'est un exemple d'opération qu'on peut faire pour Giving Tuesday. Mais on n'est pas obligé d'inventer une opération incroyable comme celle-là, enfin très différente. On peut aussi faire une campagne plus classique de remerciement,
oui,
avec un appel aux dons complémentaires. Ça marche aussi pour
oui,
Giving
oui.
Tuesday.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je dis qu'on a vraiment fait que ça pour Giving Tuesday, mais c'est pas tout à fait vrai. On a fait un emailing le jour J pour vraiment juste remercier nos donateurs et les introduire à cette opération spéciale. Mais le message principal, c'était vraiment de dire merci.
Ok. On va parler un peu maintenant du ton quotidien à l'Institut Pasteur de Lille. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais évidemment le digital, on peut en faire sur tous les sujets aujourd'hui. J'aimerais déjà que tu nous racontes un peu comment ton service, enfin le service de fundraising est organisé, mm-hmm, et comment comment t'as réussi à saupoudrer un peu de digital dans les différents autres services.
Oui, alors donc le digital est quand même présent à l'Institut Pasteur de Lille depuis quelques années. Hein. On n'a pas attendu mon arrivée, et tant mieux. après, je rappelle qu'on est quand même une fondation de taille relativement moyenne. Et donc, on est un petit service, une petite équipe de collecte.
Vous êtes combien ?
On est 5.
Okay.
Je compte pas mon directeur qui est directeur philanthropie et communication, désolé Guilain, mais bon, si je plaisante, il fait quand même partie de l'équipe. Mais plus directement, donc j'ai ma responsable Léa Deseigne qui est responsable de la philanthropie et qui a vraiment tout fait sa carrière dans la philanthropie et le caritatif. Moi, ma manager, elle est responsable de la collecte auprès des particuliers. Donc moi, je suis rattachée directement à la collecte des particuliers et je fais cette partie digitale. Mais on a également une chargée de mécénat et relations entreprises et une personne qui est responsable du leg et de la transmission de patrimoine. Et en fait, ce que je me suis aperçue de ça, j'avais pas ce recul-là quand je suis arrivée, c'est qu'en fait, le digital ne touche pas que la collecte auprès des particuliers. Elle est vraiment présente partout. Donc, si je prends l'exemple du leg, voilà, moi, ma collègue, elle a fait un travail monumental sur la digitalisation de son métier et de la collecte legs transmission de patrimoine. Et aujourd'hui, elle a un site web, un blog, elle mène des campagnes payantes sur Facebook Ads et sur Google. Y a vraiment une digitalisation de tous les aspects de la collecte qui s'opère. Et moi, mon rôle, c'est de plus en plus de les accompagner et d'apporter mon expertise digitale pour aider à aller encore plus vite et plus loin.
Mais par exemple, sur le faire des Facebook Ads, c'est... il faut connaître un petit peu, quoi. On ne se lance pas dedans. Donc, elle a réussi à le faire
Non, on est accompagné. Ouais. On est accompagné par notre agence Adfinitas. Mais, et ils font du super boulot et sur aussi bien l'accompagnement stratégique que toute la partie technique et création des campagnes, etc. Mais il faut avoir un recul aussi sur comment bien allier tout ça avec ses intérêts stratégiques de l'Institut Pasteur de Lille. Et puis, juste mener un peu en chef de projet, en chef d'orchestre, tout ça, pour que tout soit cohérent. On ne travaille pas que avec notre agence, on a aussi d'autres prestataires qui nous aident, notamment, je sais que ma collègue, elle travaille sur son blog avec une autre entreprise. Donc, mais c'est vraiment comment orchestrer tous ces aspects-là. Et lorsque on n'est pas né dans le marketing digital, on n'a pas forcément les réflexes, le recul sur certains sujets, sur les bonnes pratiques, sur ce qu'on pourrait faire. Et moi, c'est là où j'essaye d'apporter mes conseils et mon expertise.
Mais donc, ils viennent te solliciter à chaque fois qu'ils veulent faire... Parce que après, c'est sans fin, non ? Sur le site web, sur le blog... mon PC qui marche pas. À un moment, est-ce que c'est pas là où t'es pas appelé tous les matins?
Non, parce que voilà, aujourd'hui, je suis encore vraiment à la collecte auprès des particuliers. Elles en ont bien conscience. Après, de plus en plus, moi, c'est spontanément moi qui vais aller vers elles aussi et leur dire, est-ce que t'as pensé à ça? Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu mieux comment tel outil fonctionne? Par exemple, Google Ads. Qu'on aille regarder ensemble comment les campagnes sont construites par notre agence pour qu'on puisse apprendre ensemble comment c'est fait et le concret du marketing digital. Je précise, je suis pas informaticienne, donc non, ne venez pas me voir pour votre PC clairement. Mais
C'est vrai que pour beaucoup tu rigoles, mais la limite entre entre le marketing digital et l'informatique, c'est très obscur pour
on travaille sur un ordinateur, donc oui, ouais. C'est sûr que nos oncles et tantes viennent nous voir pour ça quand on travaille dans le digital, mais non, malheureusement, je ne sais pas réparer un PC. au-delà de ça, si je peux donner un exemple très concret, j'ai accompagné ma collègue Oleg sur sa campagne emailing en octobre dernier, et là au mois de février. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle prépare le message en amont avec son agence, elle va définir le rythme d'envoi d'emailing, mais c'est moi en interne qui maîtrise l'outil d'envoi d'emailing. Et donc je lui ai proposé de travailler avec elle pour techniquement construire les emailings, donner aussi accessoirement mon avis sur tel et tel message, ouais. Voilà, même si notre agence est tout à fait experte là-dedans et donc j'ai pas forcément mon mot à dire, c'est normal. Et je vais gérer toute la partie création, planification, réceptionner les résultats, donc c'est donner mon expertise technique et stratégique à mes collègues.
C'est quoi l'outil d'emailing que vous utilisez ?
On utilise la solution Celligent qui est de Edis.
D'accord. Donc ça, c'est un bon exemple concret. Sur la partie... mécénat aussi,
sur la partie mécénat qui se développe de plus en plus chez nous, parce qu'on a quelqu'un qui est arrivé dans notre équipe il y a quelques mois, qui fait un très bon boulot aussi et qui développe extrêmement rapidement le mécénat et les relations entreprises. Donc ça passe par justement l'aider à l'organisation d'événements. Alors par là, je n'entends pas organiser physiquement l'événement, parce que moi ça, j'y connais rien. Par contre, je vais créer la page sur laquelle les gens gens peuvent s'inscrire, comment la présenter, comment l'organiser, créer le lien, créer le tracking, créer l'email d'invitation, le suivi, les rappels, et peut-être qu'un jour on pourra penser aussi à la gestion ensemble de campagnes de visibilité sur un public professionnel et entreprise, et où là je pourrais intervenir avec des conseils et une gestion de projet avec notre agence.
D'accord. Ok, c'est clair. Et après, bon, après ça, c'est les, comme tu aides les départements à côté de toi, comme tu dis. Mais les campagnes que tu gères en direct, comme la campagne IFI, je sais que c'est voilà, un objectif aussi assez important de l'année pour pas mal d'associations. Ça, ça c'est quelque chose que donc tu fais en direct, tout seul.
Ouais, ça par contre, du coup, je suis toute seule avec l'agence, ouais. Qui est d'une aide incroyable, bien sûr. Et oui, ça, c'est vraiment la partie que je gère seule.
Alors, l'IFI, tu peux nous en parler un petit peu, parce que je sais que c'est, voilà, ça intéresse aussi pas mal d'associations qui font ça tous les ans. Vous, c'est important, l'IFI, pour vous ?
Oui, c'est notre deuxième temps fort de l'année. Clairement, on a deux temps forts de collecte, l'IFI et la fin d'année. Et le reste de l'année, on est sur des campagnes thématiques maladies. Donc, par exemple, au mois de septembre, ça sera campagne Alzheimer, mais qui ne représente pas du tout les volumes de collecte, que, les mêmes que... IFI et fin d'année. Ouais. Donc l'IFI,
on est... L'IFI par rapport à la fin d'année, ça représente c'est quand même loin d'être comparable, non ?
Je manque de recul, je pense, là-dessus, parce que j'ai pas encore fait une année complète, donc là c'est ma première campagne IFI que je vais faire dans quelques semaines, mais on est non, alors la fin d'année c'est 50% de notre collecte annuelle, ouais. Donc là on est sur des volumes, disons, plus faible en termes de nombre de dons, mais en nombre et mais en montant de collecte, on est sur des gros montants de collecte, ouais. Vu qu'on est sur un public qui cherche à défiscaliser des gros montants d'impôts sur la fortune immobilière.
Ok, ok. C'est quoi votre collecte, le budget, tu sais ça, ou enfin le budget global, non, que j'ai un ordre d'idée de la collecte globale. Ah, une question piège.
Ouais, non, c'est pas une question piège, non, mais je crois, mais c'est un peu piège quand même. non, autour okay, okay. de 8 millions, si je me trompe pas.
D'accord, d'accord. C'est dans les rapports d'activité.
Oui, voilà. Référez-vous au site web.
Ok. Ok, donc et les médias sociaux aussi, sûrement, évidemment, c'est tout le monde. Essaye de être un petit peu visible sur les médias sociaux. Et toi, il y en a que tu utilises plus que d'autres.
Alors notre cible, comme je le disais, un peu plus senior, du coup, elle est présente beaucoup sur Facebook. Si on parle mécénat, donc collecte auprès des entreprises, là, on va être vraiment plus sur LinkedIn. Il y a Instagram qui se trouve un petit peu entre les deux, parce que le public, même senior, est sur Insta, ouais. Et le public professionnel aussi. On a une chaîne YouTube sur laquelle, du coup, on poste pas mal de vidéos. On est présent sur X, mais à moindre ampleur. Clairement, là, on n'est plus sur un public scientifique. Et cette partie-là, je la gère vraiment pas du tout, pour le coup.
Et sur Facebook, c'est de la com ou enfin les collectes Facebook, à un moment, ça avait un peu freiné.
Ouais, en effet, il y a les collectes Facebook, ça freine clairement. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, on le pousse pas du tout. C'est présent. Les particuliers peuvent faire des dons sur notre page Facebook, mais c'est pas du tout un levier qu'on privilégie et ça représente aujourd'hui une part infime de ce qu'on collecte.
Bah oui, ça j'avais pas mal suivi il y a quelques années. Pareil, en Angleterre, on voyait des chiffres. Donc ça marchait bien, les campagnes, ils faisaient des choses. Et puis en France, ça a marché, je crois, en 2019-2020. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Et après,
ça a pas mal marché avec le Covid, parce que du coup, bah, les gens étaient chez eux. Et puis Facebook, c'était vraiment le lien social. Non, vraiment, aujourd'hui, moi, ce n'est pas du tout un levier sur lequel je me concentre. Après, je sais qu'Instagram aussi permet de collecter des dons. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas les leviers qui correspondent suffisamment à notre cible, qui, encore une fois, a besoin d'être dans un environnement sécurisé où ils savent qu'ils font un don qui va vraiment revenir à l'association. Et je ne suis pas sûre que, dans leur tête, Facebook soit forcément un gage de sécurité.
D'accord, donc tu le prends vraiment, il n'y a pas de ROI calculé sur
non,
Facebook.
Vraiment pas. Non, okay. Non, puis il n'y a vraiment aucun investissement, ni de temps, ni de rien du tout là-dessus.
Bah quand même, enfin vous postez quoi, rien que ça.
Oui, alors ça par contre, oui, en effet. Alors mais c'est deux choses différentes entre faire voilà collecter via Facebook avec leur outil de collecte, c'est une chose et ça marche pas très bien. Par contre en effet, on a une activité mais là davantage de visibilité sur les actions que mène Pasteur Lille, les découvertes, les recherches que font nos chercheurs. Là oui, bien sûr, c'est le réseau sur lequel il faut aller pour découvrir. Ouvrir tout ce que l'on fait au quotidien à Pasteur Lille.
D'accord. Et là, alors, je sais que tu es à Paris pour un salon. Pareil, je trouve que c'est un assez intéressant de voir comment vous raisonnez, comment tu innoves et comment tu creuses les pistes. Si tu peux nous en parler un peu de ta présence à Paris.
Oui, du coup, je suis à Paris aujourd'hui. Il fait très beau d'ailleurs, c'est hyper agréable. Et je viens parce qu'on a été invité pour un événement par un média qui cible particulièrement les expatriés, donc les Français qui vivent à l'étranger. Dans cette réflexion de créativité, de toujours trouver en fait des moyens nouveaux de toucher des nouveaux donateurs. Moi, j'ai une très bonne expérience sur ce marché expatrié, déjà parce que je l'ai été au Québec, aussi parce que du coup, à l'EDEC Business School, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce marché-là. Et là, du coup, la question, c'est est-ce que on pourrait avoir un marché intéressant pour collecter et trouver des nouveaux donateurs sur le marché expatrié. Donc, ouais. C'est une question. On va tenter. On aime tenter des choses. Et si on ne tente pas, on ne saura jamais. Donc, voilà.
Donc, voilà, les expatriés, ils ont des problématiques communes. Ils ont des.
Oui, ils payent leurs impôts. Beaucoup payent encore leurs impôts en France. Et donc, ils ont la même préoccupation de déduction fiscale que tous les autres Français. Et puis, les expatriés sont très attachés à leur pays d'origine, donc très sensibles aussi aux causes de leur pays d'origine.
Ah ouais, ouais. Faire un don, bon, ça fait du bien à tout le monde. Eux, en plus, ça leur rappelle.
Exactement. C'est aussi soutenir le pays dont ils viennent. Et voilà. Ouais.
D'accord, d'accord. Donc ça, c'est. Et donc, entre se dire, tiens, on va essayer de cibler telle population et après le mettre en œuvre, comme tu dis, bah, c'est venir au salon, par exemple, c'est rencontrer des gens.
C'est ça, c'est rencontrer des gens, poser des questions sur le comportement des expatriés. Est-ce qu'il va leur parler? Est-ce qu'on parle déduction ou est-ce qu'on parle attachement à la cause, c'est-à-dire la recherche médicale? Voilà, c'est ça que moi, j'essaye de comprendre, le comportement en fait, du donateur. C'est la base du marketing, hein, c'est comprendre à qui on s'adresse. Donc, pour trouver le bon message, et si jamais... Du coup, on décide vraiment de s'y investir. Ça sera avec des acteurs clés dans le secteur, notamment celui avec qui j'ai travaillé pendant des années, c'est le Petit Journal International, qui est vraiment expert sur ce marché-là. Et donc, on verra via le biais d'une newsletter, d'un article sur leur site, ils font également du display. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de leviers en digital qu'on peut activer. Et en fonction du budget qu'on a, activer beaucoup ou peu de leviers pour aller toucher cette nouvelle cible.
D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est sympa. Écoute, on te réinvitera quand tu seras. Mais je ne sais pas si après un pas j'entends ça. J'espère que c'est un. C'est sûrement un marché qui est intéressant et des gens à qui on va peu parler de dons, je pense, mais bon.
C'est ça. Bah, c'est à essayer. Peut-être ouais. que ça ne marchera pas, mais encore une fois, si on n'essaye voilà. pas, on ne peut pas savoir.
Ok, ok. Avant de finir, de conclure, on peut reboucler sur les valeurs. Je sais pas. Tu dis, t'as connu. Bah, des secteurs différents, en fait, t'as connu le secteur commercial, après t'as connu le secteur éducatif, le secteur maintenant associatif. Est-ce que ça a répondu à tes... Bon, ça fait 8 mois, mais est-ce que ton besoin de trouver un sens, tu dis pour l'instant, ça y a répondu?
Oui, oui, tout à fait. Et je pense que je suis complètement dans le cliché de la trentenaire qui a besoin d'un boulot dans lequel elle... Voilà, ça
en général, on dit que c'est à 40 ans, donc t'as un peu d'avance.
C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ma génération, on est vachement là-dedans. Et tant mieux, parce qu'en fait, ça montre aussi qu'on a envie de s'investir pleinement dans ce qu'on fait et qu'on a envie de venir au boulot tous les jours pour une bonne raison. Et oui, clairement, moi, je suis ravie et je sens que je partage cette même motivation avec mes collègues. On est beaucoup à venir, en fait, d'un milieu qui n'est pas forcément le milieu caritatif et d'apporter notre expertise métier au service, justement, du carry, du fundraising, c'est hyper intéressant parce qu'aussi on a d'autres réflexes professionnels et ça va être aussi bien dans l'approche de nos partenaires que vraiment juste au quotidien, comment on bosse, comment on collabore en équipe. Et donc là où, après je sais pas, moi j'ai pas bossé dans d'autres associations, dans d'autres fondations, donc j'espère que ça se passe aussi comme ça, mais en tout cas voilà, il y a vraiment une synergie dans notre équipe, deux métiers, deux compétences, et on a tout, et bon ça fait un peu mielleux, mais on a vraiment un objectif commun, donc c'est hyper motivant. Je suis très très contente, moi, d'avoir choisi cette voie-là. Je pense que j'aurais du mal à revenir en arrière, donc il n'y a pas de raison que je le quitte de si tôt. Voilà.
Bon, ben super. Écoute, avec de l'énergie comme tu as, je suis sûr que ça va. Tu vas trouver plein de voies pour l'Institut Pasteur de Lille. Ok, bah, j'aime bien finir avec une ou deux questions un peu traditionnelles. Par exemple, est-ce que tu as un échec à nous partager, une opération qui n'aurait pas bien marché récemment ?
Oui, bah, je pense qu'on en a tous, malheureusement. Ouais. Mais encore une fois, il faut essayer. Et parfois, ça réussit et tant mieux. Parfois, ça ne réussit pas. Nous, dans le cadre de notre campagne de fin d'année l'an dernier, j'ai voulu mettre en place une opération SMS, donc c'est-à-dire faire un appel aux dons sur tous les numéros de téléphone qu'on avait dans notre base de données donateurs et qui avaient accepté en fait de recevoir nos SMS. Et en fait, ça n'a pas très bien marché. Et je pense que c'est parce que les gens ne sont pas prêts à déjà recevoir un texto où ils ne sont pas forcément sûrs de savoir si c'est légitime ou pas. Ouais. Il y a beaucoup de phishing de nos jours, donc c'est compliqué. Et aussi de faire un don sur leur téléphone mobile en suivant un lien. Voilà, c'est plus... là, pour le coup, je pense que j'ai eu une mauvaise lecture du comportement de notre cible et de nos donateurs. Et donc, on ne le refera pas.
Donc ça, c'est des donateurs, donc c'était un don 30 euros, c'était pas de don de 2 euros, parce qu'il y a les dons en cas d'urgence. Je sais que ça fonctionne, j'ai eu des exemples de campagne qui a bien fonctionné, mais c'était des dons de 2-5 euros. Mmh. Là, c'était un don plus conséquent, un don classique.
Oui, alors en fait, il y a deux méthodes. Soit, en effet, on a un numéro de don où les gens vont du coup envoyer une certaine somme à un numéro spécifique qui est attribué à une association. Là, nous, ce qu'on a fait, c'était pas ça. C'est qu'on a vraiment envoyé un texto, un SMS texte dans Soutenez l'Institut Pasteur. Pour cela, cliquez ici.
Voilà. Et c'était un lien. Sur votre page Irisa.
Exactement, notre formulaire de don.
D'accord.
C'était peut-être la forme aussi, du coup, qui n'a pas percuté.
Ouais, je sais pas. Déjà, personne s'est plaint. Pourquoi vous m'envoyez ? Enfin, déjà,
non.
Rien que ça. Parce que,
non, vraiment pas. Donc ça,
les gens l'ouvrent. Voilà, les SMS, on dit, au moins, on est sûr qu'il est lu.
Ouais.
Mais effectivement, on passe vite à autre chose, quoi.
On n'a pas eu ces retours-là, donc tant mieux. Après, voilà, il y a plein d'autres paramètres. Est-ce que c'était pas le bonjour ? Parce que là, je crois que c'était vraiment entre Noël et l'an. Est-ce que... voilà, après nous on sait aussi quand on fait du démarchage téléphonique, il y a beaucoup de gens qui nous rappellent derrière, qui nous disent c'est bien vous, c'est pas une arnaque, voilà, donc il y a voilà, encore une fois ce besoin de réassurance très très présent.
Ouais, bien sûr. Ok, je crois qu'on arrive au terme de l'heure que j'essaie de m'accorder, donc Louise, merci d'avoir accepté, donner ton temps avant ce gala. Je suis sûr que ça donne pas mal d'idées, sur, on a fait plein de sujets différents, hein, pas que Giving Tuesday au final. Écoute, je te laisse partir à ton gala et profiter du beau temps parisien, et puis merci encore et à bientôt.
Merci beaucoup David, à très bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidélis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.